La rédemption éternelle. Jean, chapitre 8, versets 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle quantité de péchés Jésus a-t-il effacé ? Tous les péchés du monde. Jésus nous a donné la rédemption éternelle. Il n'y a personne dans ce monde qui ne puisse être racheté s'il croit en Jésus comme son Sauveur. Il nous a tous rachetés. S'il y a un pécheur qui agonise à cause de ses péchés, c'est parce qu'il ne comprend pas comment Jésus l'a délivré de tous les péchés par son baptême. Nous devrions tous connaître et croire au secret du salut. Jésus a pris en charge tous nos péchés par son baptême et a porté le jugement pour nos péchés en mourant sur la croix. Vous devriez croire au salut de l'eau et de l'esprit, la rédemption éternelle de tous les péchés. Vous devriez croire en son grand amour qui a déjà fait de vous un homme juste. Croyez en ce qu'il a fait pour votre salut au Jourdain et sur la croix. Et Jésus connaissait aussi tous nos péchés cachés. Certaines personnes ont une idée fausse du péché. Ils pensent que certains péchés ne peuvent pas être rachetés. Jésus a racheté tous les péchés, chacun d'entre eux. Il n'y a pas de péché dans ce monde qu'il n'ait pas enlevé. Parce qu'il a racheté tous les péchés de ce monde, il n'y a plus de pécheurs. Connaissez-vous l'Évangile qui a racheté tous vos péchés, même vos péchés à venir ? Croyez en lui et soyez sauvés. Et revenez à la gloire de Dieu. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Combien de personnes dans le monde commettent l'adultère ? Tout le monde. Dans Jean, chapitre 8, il y a une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et nous voyons comment elle a été sauvée par Jésus. Nous aimerions partager la grâce qu'elle a reçue. Il n'est pas exagéré de dire que tous les êtres humains commettent l'adultère tout au long de leur vie. Chaque personne commet l'adultère. Si cela ne semble pas être le cas, c'est seulement parce que nous le faisons si souvent que cela semble ne pas être le cas. Pourquoi ? Nous vivons en portant tant d'adultères dans nos vies. Je regarde la femme et je me demande s'il y en a un parmi nous qui n'a pas commis d'adultère. Il n'y a personne qui n'ait pas commis d'adultère comme la femme qui a été surprise. Nous faisons tous seulement semblant de ne pas l'avoir fait. Pensez-vous que j'ai tort ? Non, je ne me trompe pas. Regardez attentivement à l'intérieur de vous. Tout le monde sur la surface de la terre l'a fait. Ils commettent l'adultère en regardant les femmes dans la rue, dans leurs pensées et dans leurs actes, à tout moment, n'importe où. Ils ne se rendent pas compte qu'ils le font. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent compte qu'au jour de leur mort qu'ils ont commis l'adultère à de nombreuses reprises au cours de leur vie. C'est vrai non seulement pour ceux qui ont été pris en flagrant délit, mais aussi pour tous ceux qui n'ont jamais été pris en flagrant délit. Tout le monde le fait dans son esprit et dans ses actes. Cela ne fait-il pas partie de notre vie ? Es-tu vexé ? C'est la vérité. Nous le taisons simplement parce que nous sommes gênés. Je crois que de nos jours, les gens commettent tout le temps l'adultère sans se rendre compte qu'ils le font. Les gens commettent également un adultère spirituel. Nous, qui avons été créés par Dieu, vivons sur cette terre sans jamais nous rendre compte que nous commettons un adultère dans notre âme. Adorer d'autres dieux est un adultère spirituel, car le Seigneur est le seul époux de toute l'humanité. La femme qui a été prise en flagrant délit était un être humain comme nous tous, et elle a reçu la grâce de Dieu tout comme nous qui avons été rachetés. Mais les pharisiens hypocrites l'ont fait se tenir au milieu d'eux, l'ont montré du doigt comme s'ils étaient juges, et s'apprêtaient à lui jeter des pierres. Ils allaient la ridiculiser et la juger comme s'ils étaient eux-mêmes purs, comme s'ils n'avaient jamais commis d'adultère. Chers chrétiens, ceux qui se savent être un paquet de péchés ne jugent pas les autres devant Dieu. Mais parce qu'ils savent qu'eux aussi commettent l'adultère toute leur vie, ils reçoivent la grâce de Dieu qui nous a tous rachetés. Seuls ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs qui commettent l'adultère depuis toujours sont éligibles pour être rachetés devant Dieu. Qui reçoit la grâce de Dieu? Celui qui vit purement sans commettre d'adultère reçoit-il sa grâce, ou celui qui est indigne et qui s'avoue si pécheur reçoit-il sa grâce? Celui qui admet être si pécheur est celui qui reçoit la grâce abondante de sa rédemption. Ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, ceux qui sont faibles et impuissants reçoivent la rédemption. Ce sont eux qui sont dans sa grâce. Qui reçoit la grâce de Dieu? Des gens indignes. Ceux qui pensent qu'ils sont sans péché ne peuvent pas être rachetés. Comment peuvent-ils recevoir la grâce de sa rédemption alors qu'il n'y a rien à racheter? Les scribes et les pharisiens amenèrent devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la placèrent au milieu d'eux et lui demandèrent « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Pourquoi l'ont-ils amenée devant lui et ont-ils mis lui à l'épreuve ? Eux-mêmes avaient également commis l'adultère à plusieurs reprises, mais ils essayaient de la juger et de la tuer par Jésus, et essayaient de lui rejeter la faute. Jésus savait ce qu'ils avaient en tête et savait toute cette femme. Alors, il dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, les scribes et les pharisiens, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, partirent un à un et il ne resta plus que Jésus et la femme. Ceux qui sont partis étaient les scribes et les pharisiens, les chefs religieux. Ils étaient sur le point de juger la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes des pécheurs. Jésus a proclamé son amour dans ce monde. Il était l'hôte de l'amour. Jésus a donné à manger aux gens, a ramené les morts, a redonné la vie au fils d'une veuve, a ressuscité Lazare, a guéri les lépreux et a fait des miracles pour les pauvres. Et il a ôté tous les péchés de tous les pécheurs et leur a donné le salut. Jésus nous aime. Il est le Tout-Puissant qui peut tout faire, mais les pharisiens et les scribes le considéraient comme leur ennemi. C'est pourquoi ils ont amené la femme devant lui et l'ont testée. Ils demandèrent, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Ils pensaient qu'il leur dirait de la lapider. Mais pourquoi ? Si nous devions juger selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, tous les hommes qui ont commis l'adultère seraient lapidés sans exception. Tous doivent être lapidés et tous sont destinés à aller en enfer. Le salaire du péché est la mort. Cependant, Jésus ne leur a pas dit de la lapider, mais a dit à la place, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 613 articles de la loi? Pour nous faire comprendre que nous sommes pécheurs. La loi provoque la colère. Dieu est saint, tout comme sa loi. Cette loi sainte nous est parvenue en 613 articles. La raison pour laquelle Dieu nous a donné 613 articles de la loi est pour nous faire comprendre que nous sommes pécheurs, que nous sommes des êtres incomplets. Cela nous enseigne que nous devons compter sur la grâce de Dieu pour être rachetés. Si nous ne savions pas cela et ne pensions qu'à ce qui est écrit, nous devrions tous être lapidés aussi sûrement que la femme qui a été prise en flagrant délit. Les scribes et les pharisiens qui ne connaissaient pas la vérité de sa loi auraient pu penser qu'ils pouvaient lapider la femme, et peut-être nous aussi. Qui peut jeter des pierres sur une femme sans défense? Même si elle avait été prise sur les lieux, personne au monde n'aurait pu lui jeter une pierre. Si la femme et chacun d'entre nous étaient jugés selon la loi uniquement, nous recevrions, tout comme la femme, un jugement terrible. Mais Jésus nous a sauvés, nous qui sommes pécheurs, de nos péchés et du juste jugement. Avec tous nos péchés, si la loi de Dieu est appliquée strictement à la lettre, qui d'entre nous pourrait rester en vie? Chacun d'entre nous finirait en enfer. Mais les scribes et les pharisiens ne connaissaient la loi que telle qu'elle était écrite. Si la loi de Dieu était appliquée correctement, elle les tuerait aussi sûrement que celui qu'ils ont condamné. En fait, la loi de Dieu a été donnée aux hommes pour qu'ils puissent comprendre leurs péchés, mais ils ont souffert parce qu'ils l'ont mal comprise et mal appliquée. Les pharisiens d'aujourd'hui, tout comme les pharisiens de la Bible, ne connaissent que la loi telle qu'elle est écrite. Ils doivent comprendre la grâce, la justice et la vérité de Dieu. Ils doivent apprendre l'évangile de la rédemption pour être sauvés. Les pharisiens dirent : La loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Demandèrent-ils en tenant les pierres avec confiance. Ils pensaient avec certitude que Jésus n'aurait rien à dire à ce sujet. Ils attendaient que Jésus morde à l'hameçon. Si Jésus avait jugé selon la loi, il aurait aussi été lapidé par eux. Leur but était de les lapider tous les deux. Si Jésus avait dit de ne pas lapider la femme, ils auraient dit que Jésus avait méprisé la loi de Dieu et l'aurait lapidé pour blasphème. Quelle terrible machination ! Mais Jésus se baissa et écrivit sur le sol avec son doigt, et ils continuèrent à lui demander : Que dis-tu ? Qu'est-ce que tu écris par terre ? Répondez simplement à notre question. Que dites-vous ? Ils ont pointé Jésus du doigt et ont continué à le harceler. Jésus se leva et leur dit que celle d'entre eux sans péché devrait d'abord lui jeter une pierre. Puis, il s'est penché et a continué à écrire sur le sol. Alors ceux qui l'entendirent, convaincus par leur conscience, sortirent un à un, en commençant par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, avec la femme debout en sa présence. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Où sont inscrits les péchés ? Sur la tablette de notre cœur et dans les livres des œuvres. Jésus leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ensuite, ils se mirent à partir un à un, en commençant par les plus âgés. Les pharisiens les plus âgés, qui avaient commis plus de péchés, s'en allèrent les premiers. Et les jeunes aussi s'en allèrent. Supposons que Jésus se tenait parmi nous et que nous étions debout autour de la femme. Si Jésus nous avait dit que celui d'entre nous qui était sans péché devait jeter une pierre le premier, qu'auriez-vous fait ? Qu'aurait écrit Jésus sur le sol ? Dieu, qui nous a créés, écrit nos péchés à deux endroits différents. D'abord, il écrit nos péchés sur les tablettes de notre cœur. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Jérémie, chapitre 17, verset 1. Dieu nous parle à travers Judas. Les péchés des hommes sont gravés avec une plume de fer, avec la pointe d'un diamant. Ils sont inscrits sur la tablette de notre cœur. Jésus s'est penché et a écrit sur le sol que les hommes sont pécheurs. Dieu sait que nous péchons et il grave les péchés sur la tablette de notre cœur. D'abord, il enregistre nos œuvres, les péchés que nous commettons parce que nous sommes fragiles devant la loi. Comme les péchés sont enregistrés dans nos cœurs, nous réalisons que nous sommes pécheurs lorsque nous regardons la loi. Parce qu'il les a enregistrés dans nos cœurs, dans notre conscience, nous savons que nous sommes pécheurs devant lui. Et Jésus se baissa une seconde fois pour écrire sur le sol. L'Écriture dit que tous nos péchés sont également enregistrés dans les livres des œuvres devant Dieu. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Le nom d'une personne et ses péchés sont enregistrés dans le livre. Et ils sont également enregistrés sur la tablette du cœur de la personne. Nos péchés sont enregistrés deux fois dans le livre des œuvres et sur les tablettes de notre cœur. Les péchés sont enregistrés sur la tablette du cœur de chacun, jeune ou vieux. C'est pourquoi ils n'avaient rien à dire sur leurs péchés devant Jésus. Ceux qui essayaient de lapider la femme étaient impuissants devant ses paroles. Quand nos péchés, qui sont enregistrés à deux endroits, sont-ils effacés ? Lorsque nous acceptons la rédemption de l'eau et du sang de Jésus dans nos cœurs. Cependant, lorsque vous recevez le salut, tous vos péchés dans le livre des œuvres sont effacés et votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Ceux dont les noms apparaissent dans le livre de vie vont au ciel. Leurs bonnes actions, les choses qu'ils ont faites dans ce monde pour le royaume de Dieu et sa justice, sont également enregistrées dans le livre de vie. Ils sont acceptés au ciel. Ceux qui sont délivrés de leurs péchés entrent dans le pays de l'éternité. Les péchés de chaque homme sont enregistrés à deux endroits. Personne ne peut donc tromper Dieu. Il n'y a personne qui n'ait pas péché dans son cœur et qui n'ait pas commis d'adultère dans son cœur. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous imparfaits. Ceux qui n'ont pas accepté la rédemption de Jésus dans leur cœur ne peuvent que souffrir de leurs péchés. Ils n'ont pas confiance. Ils ont peur de Dieu ils ont peur devant Dieu et devant les autres à cause de leurs péchés. Mais au moment où ils acceptent dans leur cœur l'évangile de la rédemption de l'eau et de l'esprit, tous les péchés inscrits sur la tablette de leur cœur et dans le livre des œuvres sont effacés. Ils sont délivrés de tous leurs péchés. Il y a le livre de vie au ciel. Les noms de ceux qui croient en la rédemption de l'eau et de l'esprit sont inscrits dans le livre, et ils entreront au ciel. Ils entrent au ciel, non pas parce qu'ils n'ont pas péché dans ce monde, mais parce qu'ils ont été délivrés de tous leurs péchés en croyant en la rédemption de l'eau et de l'esprit. C'est la loi de la foi. Romains, chapitre 3, verset 27. Chers frères chrétiens, les scribes et les pharisiens étaient des pécheurs, tout comme la femme surprise en adultère. En fait, ils avaient commis plus de péchés parce qu'ils prétendaient et se trompaient en prétendant qu'ils n'étaient pas pécheurs. Les chefs religieux étaient des voleurs avec des permis officiels. Ils étaient des voleurs d'âmes, des voleurs de vie. Ils osaient enseigner les autres de manière crédible, bien qu'eux-mêmes n'aient pas encore été rachetés. Il n'y a personne qui soit sans péché selon la loi. Mais un homme devient juste, non parce qu'il ne pèche pas, mais parce qu'il a été racheté de tous ses péchés et que son nom est inscrit dans le livre de vie. Ce qui compte, c'est que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Les gens ne peuvent pas vivre sans commettre de péché, ils doivent donc être rachetés. Que vous soyez accepté au paradis ou non dépend de votre foi ou non. Que vous receviez ou non la grâce de Dieu dépend de votre acceptation du salut en Jésus. Qu'est-il arrivé à la femme qui a été attrapée? Elle se tenait là, les yeux fermés, car elle savait qu'elle allait mourir. Elle pleurait probablement de peur et de repentir. Les gens deviennent honnêtes avec eux-mêmes lorsqu'ils font face à la mort. « Oh, Dieu, il est normal que je doive mourir. S'il te plaît, accepte mon âme entre tes mains et aie pitié de moi. S'il te plaît, aie pitié de moi, Jésus. » Elle a supplié Jésus de lui accorder l'amour de la rédemption. « Dieu, si tu me juges, je serai jugé, et si tu dis que je suis sans péché, alors mes péchés seront effacés. C'est à toi de décider. » Elle disait probablement toutes ces choses. Tout était laissé à Jésus. La femme qui a été amenée devant Jésus n'a pas dit « J'ai fait du mal, s'il te plaît, pardonne-moi mon adultère. » Elle a dit « S'il te plaît, sauve-moi de mes péchés. Si tu rachètes mes péchés, je serai sauvée. Sinon, j'irai en enfer. J'ai besoin de ta rédemption. J'ai besoin de l'amour de Dieu et j'ai besoin qu'il ait pitié de moi. » Elle ferma les yeux et confessa ses péchés. Et Jésus lui demanda « Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus ne l'a pas condamnée parce qu'il avait déjà enlevé tous ses péchés par son baptême au Jourdain, et elle était déjà rachetée. Maintenant, c'est Jésus, et non la femme, qui devait être jugée pour ses péchés. Il a dit « Je ne te condamne pas non plus. » A-t-elle été condamnée par Jésus? Non. Cette femme a été bénie par le salut en Jésus. Elle a été rachetée de tous ses péchés. Notre Seigneur Jésus nous dit qu'il a racheté tous nos péchés et que nous sommes tous justes. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a enlevé nos péchés par son baptême au Jourdain, puis il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Il nous dit clairement qu'il a racheté tous ceux qui croient en la rédemption de son baptême et du jugement sur la croix. Nous avons tous besoin des paroles écrites de Jésus et devons nous accrocher à ses paroles. Alors nous serons tous bénis par la rédemption. Dieu, je n'ai aucun mérite devant toi. Je n'ai aucun talent. Je n'ai rien à te montrer à part mes péchés. Mais je crois que Jésus est mon Seigneur de la rédemption. Il a enlevé tous mes péchés au Jourdain et les a expiés tous sur la croix. Il a effacé tous mes péchés par son baptême et son sang. Je crois en toi, Seigneur. C'est ainsi que vous êtes sauvés. Jésus ne nous condamne pas. Il nous a donné le droit d'être les enfants justes de Dieu, à ceux qui croient à la rédemption de l'eau et de l'esprit. Chers amis, la femme a été rachetée. La femme qui a été surprise en adultère a été bénie par la rédemption devant Jésus. Nous pouvons aussi être bénis de la sorte. Quiconque connaît ses péchés et demande à Dieu d'avoir pitié de lui, quiconque croit à la rédemption de l'eau et de l'esprit en Jésus reçoit la bénédiction de la rédemption de Dieu. Ceux qui admettent leurs péchés devant Dieu peuvent être rachetés. Celui qui pêche et ne se rend pas compte de ses propres péchés ne peut pas être béni par la rédemption. Jésus a enlevé les péchés du monde. Jean, chapitre 1, verset 29. Tout pécheur dans le monde peut être racheté s'il croit en Jésus. Jésus dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Il a dit qu'il ne l'avait pas condamnée parce que tous ses péchés lui appartenaient déjà, il avait pris tous nos péchés sur lui et il devait être jugé à notre place. Nous devons aussi être rachetés devant Jésus. Qu'est-ce qui est le plus grand, l'amour de Dieu ou le jugement de Dieu? L'amour de Dieu. Les pharisiens, avec des pierres dans leurs mains, ainsi que les chefs religieux d'aujourd'hui, interprètent la loi à la lettre. Ils croient que puisque la loi nous dit de ne pas commettre d'adultère, celui qui pêche sera lapidé à mort. Ils regardent les femmes et les convoitent tout en prétendant ne pas commettre d'adultère. Ils ne peuvent être ni rachetés ni sauvés. Les pharisiens et les scribes étaient les moralistes de ce monde. Ce n'étaient pas eux que Jésus a appelés. Ces gens n'ont jamais entendu de lui, moi non plus, je ne te condamne pas. Seule la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère a entendu ces paroles joyeuses. Si vous êtes honnête devant lui, vous pouvez aussi être béni comme elle. Dieu, je commets l'adultère toute ma vie. Il semble que je ne le fasse pas seulement parce que je le fais si souvent. Je pêche plusieurs fois par jour. Lorsque nous nous tenons devant la loi et acceptons le fait que nous sommes des pécheurs qui doivent mourir, et faisons face à Dieu honnêtement et reconnaissons-nous tels que nous sommes, en disant « Dieu, voilà ce que je suis. S'il te plaît, sauve-moi. » Dieu nous bénira avec la rédemption. L'amour de Jésus, de l'eau et de l'esprit, a vaincu le juste jugement de Dieu. Je ne te condamne pas non plus. Il ne nous condamne pas, et il dit, vous êtes rachetés. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de compassion. Il nous a délivrés de tous les péchés du monde. Notre Dieu est le Dieu de justice et le Dieu d'amour. L'amour de l'eau et de l'esprit est encore plus grand que son jugement. Son amour est plus grand que sa justice. Pourquoi nous a-t-il tous rachetés? Parce que son amour est plus grand que sa justice. Si Dieu avait appliqué son jugement pour compléter sa justice, il aurait jugé tous les pécheurs et les aurait envoyés en enfer. Mais parce que l'amour de Jésus qui nous sauve du jugement est plus grand, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Jésus a pris tous nos péchés sur lui et a reçu le jugement juste pour nous tous. Maintenant, quiconque croit en Jésus comme son Sauveur devient son enfant et juste. Parce que son amour est plus grand que sa justice, il nous a tous rachetés. Nous devons remercier Dieu de ne pas nous juger uniquement avec sa justice. Comme Jésus l'a dit aux scribes, aux pharisiens et à leurs disciples, Dieu veut la miséricorde et la connaissance de Dieu, pas nos offrandes. Certaines personnes tuent une vache ou une chèvre chaque jour et l'offrent devant Dieu et prient, « Dieu, pardonne mes péchés chaque jour. » Dieu ne veut pas nos offrandes, mais plutôt notre croyance en la rédemption de l'eau et de l'esprit. Il veut que nous soyons rachetés et délivrés. Il veut nous donner son amour, et il veut accepter notre foi. Pouvez-vous tous voir cela? Jésus nous a donné le salut. Jésus déteste le péché, mais il a un amour ardent pour les êtres humains, créés à l'image de Dieu. Il avait décidé avant même le commencement des temps de faire de nous ses enfants, et il a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang. Dieu nous a créés pour nous racheter, pour nous revêtir de Jésus et pour faire de nous ses enfants. C'est l'amour qu'il a pour nous, ses créatures. Si Dieu nous jugeait seulement selon sa juste loi, nous, les pécheurs, serions tous condamnés à mourir. Mais il nous a délivrés par le baptême et le jugement de son Fils à la croix. Le croyez-vous? Confirmons-le dans l'Ancien Testament. Aaron posait ses mains sur le bouc émissaire. Qui a transmis les péchés d'Israël au bouc vivant en tant que leur représentant? Le grand prêtre. Tous les péchés de ce monde ont été expiés par l'imposition des mains de l'Ancien Testament et le baptême du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tous les péchés annuels d'Israël étaient expiés par le grand prêtre, qui posait ses mains sur la tête du bouc sans défaut. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Lévitique, chapitre 16, verset 21. C'est ainsi qu'ils étaient expiés à l'époque de l'Ancien Testament. Pour être rachetés des péchés quotidiens, On apportait un agneau ou un bouc sans défaut au tabernacle et on l'offrait sur l'autel. Il posa ses mains sur la tête de l'offrande, et ses péchés furent transférés sur la victime. Ensuite, la victime sacrificielle fut tuée, et le prêtre appliqua son sang sur les cornes de l'autel. Il y avait des cornes aux quatre coins de l'autel. Ces cornes symbolisent le livre des Actes expliqué dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Et le reste du sang fut également répandu sur le sol. Le sol représente le cœur de l'homme, car l'homme est créé à partir de la poussière. Le peuple expiait ainsi ses péchés quotidiens. Mais ils ne pouvaient pas faire d'offrande pour le péché quotidiennement. Alors, Dieu leur a permis de faire l'expiation une fois par an pour les péchés d'une année. C'était le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Ce jour-là, le représentant de tout le peuple d'Israël, le grand prêtre, apporta deux boucs et posa ses mains sur eux pour transférer tous les péchés du peuple, et les offrit devant Dieu pour faire l'expiation pour le peuple d'Israël. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Lévitique, chapitre 16, verset 21. Dieu avait désigné Aaron comme grand prêtre d'Israël. Au lieu que chacun impose ses mains sur les offrandes individuellement, le souverain sacrificateur, en tant que représentant de tous les Israélites, en posant sa main sur la tête d'un bouc vivant, il ôta l'équivalent d'un an de péché. Et il racontait tous les péchés d'Israël devant Dieu. Ô Dieu, tes enfants d'Israël ont péché. Nous avons adoré des idoles, brisé tous les articles de ta loi, invoqué ton nom en vain, créé d'autres idoles et les avons aimées plus que toi. Nous n'avons pas sanctifié le sabbat, nous n'avons pas respecté nos parents, nous avons tué, commis l'adultère et le vol. Nous nous sommes livrés à la jalousie et aux querelles. Il a énuméré tous les péchés. Dieu, ni le peuple d'Israël ni moi n'avons pu observer aucune de tes lois. Pour être racheté de tous ces péchés, je pose mes mains sur la tête de ce bouc et je lui transmets tous ses péchés. Le grand prêtre imposa les mains sur l'offrande pour tous les Israélites et transféra tous les péchés sur la tête de l'offrande. L'imposition des mains signifie « passé ». Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 16, versets 20 à 21. Comment l'expiation s'est-elle accomplie à l'époque de l'Ancien Testament ? Par l'imposition des mains sur la tête du sacrifice pour le péché. Dieu avait donné le rituel du sacrifice pour le péché au peuple d'Israël afin qu'il puisse transmettre tous ses péchés et être racheté. Il a spécifié qu'il devait y avoir un sacrifice pour le péché sans défaut, l'imposition des mains sur la tête du sacrifice pour le péché au peuple d'Israël pour tous leurs péchés, et que le sacrifice pour le péché devait mourir à la place d'une personne. Le jour des expiations, le sacrifice pour le péché était tué et son sang était prélevé à l'intérieur du lieu saint et aspergé cette fois sur le propitiatoire. Ainsi, le peuple d'Israël a expié un an de péché le 10e jour du 7e mois. Le grand prêtre entra seul dans le lieu saint pour offrir le sacrifice, mais les gens se rassemblaient à l'extérieur et écoutaient le son des cloches d'or sur la robe de l'éphod du grand prêtre qui sonnait cette fois tandis que le sang était aspergé sur le propitiatoire. Alors, les Israélites se réjouiraient que tous leurs péchés soient expiés. Le son des cloches d'or était le son du joyeux évangile. Il n'est pas vrai que Jésus aime certaines personnes et ne rachète que celles-ci. Jésus a enlevé tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême. Il voulait nous délivrer une fois pour toutes. Nos péchés ne pouvaient pas être rachetés chaque jour, ils ont été sauvés une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était accordée par l'imposition des mains et le sacrifice pour le péché. Aaron posa ses mains sur la tête du bouc vivant devant tous les Israélites et énuméra tous les péchés que les gens avaient commis au cours de l'année. Il a transmis les péchés au bouc devant tout le monde. Où sont alors les péchés du peuple ? Ils ont tous été transmis à la chèvre. Ensuite, le bouc a été emmené par un homme convenable. Le bouc, avec tous les péchés d'Israël, a été conduit dans le désert où il n'y avait ni eau ni herbe. La chèvre errait alors dans le désert sous le soleil brûlant et finissait par mourir. Le bouc est mort pour les péchés d'Israël. C'est l'amour de Dieu, l'amour de la rédemption. C'est ainsi qu'ils expièrent les péchés d'un an à cette époque. Mais nous vivons à l'époque du Nouveau Testament. Cela fait environ 2000 ans que Jésus est descendu dans notre monde. Il est venu et a accompli la prophétie qu'il avait faite dans l'Ancien Testament. Il est venu et a racheté tous nos péchés. pour nous racheter tous. Quelle est la signification de Jésus? Le Sauveur qui sauvera son peuple de ses péchés. Lisons Matthieu, chapitre 1. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu, chapitre 1, versets 20 à 21. Notre Père Céleste a emprunté le corps de la Vierge Marie pour envoyer son Fils dans ce monde et laver tous les péchés du monde. Il envoya un ange à Marie et lui dit « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un Fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Cela signifiait que le Fils, venant par Marie, deviendrait le Sauveur. Jésus-Christ signifie « celui qui sauvera son peuple », autrement dit le Sauveur. La manière dont Jésus a enlevé tous les péchés du monde a été par son baptême au Jourdain. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et tous les péchés du monde lui ont été transférés. Lisons Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est allé voir Jean-Baptiste pour nous racheter tous de tous nos péchés. Il est entré dans l'eau et a baissé la tête devant Jean. « Jean, baptise-moi maintenant. Il convient que nous accomplissions toute justice. Comme je dois enlever tous les péchés du monde et délivrer tous les pécheurs de leurs péchés, je dois enlever leurs péchés par le baptême. Baptisez-moi maintenant. Permettez-le. » C'est ainsi qu'il convenait d'accomplir toute justice. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et juste à ce moment-là, toute la justice de Dieu qui a racheté tous nos péchés s'est accomplie. C'est ainsi qu'il a enlevé tous nos péchés. Tous vos péchés ont également été transférés sur Jésus. Comprenez-vous cela? Croyez en la rédemption du baptême de Jésus et de l'Esprit et soyez sauvés. Comment toute justice s'est-elle accomplie? Par le baptême de Jésus. Dieu avait d'abord promis à Israël que tous les péchés du peuple d'Israël seraient effacés par l'imposition des mains et le sacrifice du bouc pour le péché. Cependant, comme il était impossible à chacun d'imposer les mains sur la tête du bouc individuellement, Dieu a consacré Aaron comme grand prêtre afin qu'il puisse offrir le sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Ainsi, il a transféré tous leurs péchés annuels sur le chef de l'offrande pour le péché, d'un seul coup. C'est sa sagesse et le pouvoir de rédemption. Dieu est sage et étonnant. Il a envoyé son Fils Jésus pour sauver notre monde. Le sacrifice pour le péché était donc prêt. Maintenant, il fallait qu'il y ait un représentant de tous les êtres humains, quelqu'un qui poserait ses mains sur la tête de Jésus et lui transmettrait tous les péchés du monde. Ce représentant était Jean-Baptiste. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 11, Dieu a envoyé le représentant de toute l'humanité devant Jésus. C'était Jean-Baptiste, le dernier grand prêtre de l'homme. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Il est le seul représentant des humains. Il a envoyé Jean comme représentant de toutes les créatures pour qu'il puisse baptiser Jésus et lui transmettre tous les péchés du monde. Si 8 milliards de personnes sur Terre allaient vers Jésus maintenant et que chacun devait imposer les mains sur Jésus pour lui transmettre ses péchés, qu'arriverait-il à sa tête? Si plus de 8 milliards de personnes dans ce monde devaient poser les mains sur Jésus, ce ne serait pas un beau spectacle. Certaines personnes enthousiastes pourraient appuyer si fort que tous ses cheveux tomberaient. Dieu, dans sa sagesse, a désigné Jean pour être notre représentant et a transféré tous les péchés du monde sur Jésus une fois pour toutes. Il est rapporté dans Matthieu, chapitre 3, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » C'était quand Jésus avait 30 ans. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Et il y a peu de traces de lui jusqu'à ses 30 ans. La raison pour laquelle Jésus a dû attendre l'âge de 30 ans pour devenir le souverain sacrificateur céleste était pour accomplir l'Ancien Testament. Dans le livre des Nombres, Dieu a dit à Moïse que le grand prêtre devait avoir au moins 30 ans avant de pouvoir exercer son ministère. Jésus est le souverain sacrificateur céleste. Croyez-vous cela? Dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 14 dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Qui est le représentant de l'humanité? Jean le Baptiste. Alors qui est le représentant du ciel? Jésus-Christ. Les représentants se sont réunis. Alors qui est le plus haut? Bien sûr, le représentant du ciel. C'est ainsi que Jean-Baptiste, qui avait eu l'audace de crier aux chefs religieux de l'époque, « Foyer de vipères, repentez-vous », est devenu humble devant Jésus. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » À ce stade, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus est venu dans ce monde pour accomplir la justice de Dieu, et cela s'est accompli lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a été baptisé. La porte du ciel s'est ouverte quand il a été baptisé par Jean le Baptiste et a emporté tous les péchés du monde. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Tous les prophètes et la loi de Dieu avaient prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Quiconque croit en son baptême peut entrer dans le royaume des cieux sans exception. Je ne te condamne pas non plus. Pourquoi Jésus a-t-il été jugé sur la croix? Parce qu'il a enlevé tous nos péchés. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a emporté tous les péchés du monde. Et plus tard, il dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Il n'a pas condamné la femme parce qu'il a enlevé tous les péchés du monde au Jourdain et Jésus, et non la femme, a dû être jugée pour ses péchés. Jésus a effacé tous les péchés du monde. Nous pouvons voir à quel point il avait peur de la douleur qu'il aurait à endurer sur la croix, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Il a prié Dieu trois fois sur le mont des Oliviers pour lui ôter ce jugement. Jésus avait la chair d'un être humain, il est donc compréhensible qu'il ait eu peur de la douleur. Jésus a dû saigner pour accomplir le jugement. Tout comme les offrandes pour le péché dans l'Ancien Testament devaient saigner pour payer les péchés, il devait être sacrifié à la croix. Il avait déjà enlevé tous les péchés du monde et maintenant il devait donner sa vie pour notre rédemption. Il savait qu'il devait être jugé devant Dieu. Jésus n'avait aucun péché dans son cœur. Mais comme tous les péchés lui ont été transférés par son baptême, Dieu devait maintenant juger son propre Fils. Ainsi, premièrement, la justice de Dieu s'est accomplie, et deuxièmement, il nous a accordé son amour pour notre salut. Jésus devait donc être jugé à la croix. Je ne vous condamne pas non plus, je ne vous juge pas non plus. Tous nos péchés, intentionnels ou non, conscients ou inconscients, devaient être jugés par Dieu. Dieu ne nous a pas jugés, mais a jugé Jésus, qui avait pris sur lui tous nos péchés par son baptême. Dieu ne voulait pas juger les pécheurs à cause de son amour et de sa compassion. Le baptême et le sang sur la croix étaient son amour rédempteur pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. C'est ainsi que nous connaissons son amour. Jésus n'a pas condamné la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle savait qu'elle était une pécheresse, car elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Non seulement elle avait le péché dans son cœur, mais elle le portait aussi dans sa chair. Elle ne pouvait en aucun cas nier son péché. Cependant, parce qu'elle croyait que Jésus lui avait enlevé tous ses péchés, elle a été sauvée. Si nous croyons en la rédemption en Jésus, nous serons sauvés. Crois-le. C'est pour notre propre bien. Qui sont les plus bénis? Ceux qui n'ont pas de péché. Tout le monde pèche. Tout le monde commet l'adultère. Mais tout le monde n'est pas jugé pour ses péchés. Nous avons tous péché, mais ceux qui croient en la rédemption de Jésus-Christ sont sans péché dans leur cœur. Celui qui croit au salut de Jésus est le plus heureux des hommes. Les plus bénis sont ceux qui sont délivrés de tous leurs péchés, ceux qui sont maintenant justes en Jésus. Dieu nous parle du bonheur dans Romains, chapitre 4, verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Nous péchons tous jusqu'à notre mort. Nous sommes irrespectueux devant Dieu et nous sommes incomplets. Nous continuons à commettre des péchés même lorsque nous sommes conscients de sa loi. Nous sommes si faibles. Mais Dieu nous a délivrés avec le baptême et le sang de son Fils unique et nous dit, vous et moi, que nous ne sommes plus pécheurs et que nous sommes désormais justes devant lui. Il nous dit que nous sommes ses enfants. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile de la rédemption. Le crois-tu? À ceux qui croient, il reconnaît qu'ils sont justes, sauvés et ses enfants. Qui est l'homme le plus heureux de ce monde? Celui qui croit et a été délivré. Avez-vous été délivré? Jésus a-t-il omis de prendre vos péchés? Non, il a pris tous vos péchés avec son baptême. Crois-le. Croyez et soyez rachetés de tous vos péchés. Tout comme si balayé avec un balai. Combien de péchés Jésus a-t-il enlevé? Tous les péchés du monde. Lisons Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a transmis tous les péchés du monde à Jésus au Jourdain. Le lendemain, il a témoigné que Jésus était l'agneau de Dieu qui a emporté tous les péchés du monde. Il a pris sur ses épaules tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde désignent tous les péchés que les êtres humains commettent dans ce monde, depuis la création jusqu'à sa fin. Il y a environ 2000 ans, Jésus a enlevé tous les péchés du monde et nous a rachetés. En tant qu'agneau de Dieu, il a enlevé tous nos péchés et a été jugé pour nous. Tout péché que nous, les êtres humains, commettons a été transmis à Jésus. Et il est devenu l'agneau de Dieu qui a emporté tous les péchés du monde. Jésus est venu dans ce monde comme le Sauveur, celui qui sauverait tous les pécheurs du monde. Nous commettons le péché parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes méchants, parce que nous sommes ignorants, parce que nous sommes frivoles et parce que nous sommes incomplets. Tous ces péchés ont été transférés sur la tête de Jésus par son baptême au Jourdain. Et il a mis fin à tout cela avec la mort de sa chair sur la croix. Il a été enterré mais ressuscité au bout de 3 jours. En tant que sauveur de tous les pécheurs, vainqueur et juge, il siège désormais à la droite de Dieu. Il n'est pas obligé de nous racheter encore et encore, et tout ce que nous avons à faire est de croire pour être sauvés. La vie éternelle attend ceux qui croient, et la destruction attend ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas d'autre choix. Jésus vous a tous délivrés. Vous êtes les gens les plus heureux sur terre. Tous les péchés que vous commettrez à l'avenir à cause de votre faiblesse, il les a tous pris. Reste-t-il du péché dans votre cœur? Non. Jésus a-t-il tout pris? Oui. Il a fait. Tous les gens sont pareils. Personne n'est plus saint que son prochain. Mais comme beaucoup de gens sont hypocrites, ils pensent qu'ils ne sont pas des pécheurs. Mais en réalité, ils sont aussi des pécheurs. Ce monde est la serre qui nourrit le péché. Lorsque les femmes sortent de chez elles, elles mettent du rouge à lèvres, se poudrent le visage, bouclent leurs cheveux, s'habillent avec de beaux vêtements et portent des talons hauts. Les hommes vont également chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, se toiletter, enfiler des chemises propres et des cravates à la mode et cirer leurs chaussures. Mais s'ils ont l'air de prince et de princesse à l'extérieur, à l'intérieur, ils sont comme les décharges les plus sales. L'argent rend-il les gens heureux? La santé rend-elle les gens heureux? Non. Seule la rédemption rend les gens vraiment heureux. Aussi heureuse qu'une personne paraisse extérieurement, elle est malheureuse si elle a du péché dans son cœur. Ils vivent dans la peur du jugement. Un racheté est audacieux comme un lion, même en haillons. Il n'y a aucun péché dans leur cœur. Merci, Seigneur, tu as sauvé un pécheur comme moi, tu as effacé tous mes péchés. Je sais que je ne suis pas grand-chose à regarder, mais je te loue de m'avoir sauvé. Je suis à jamais racheté de mes péchés. Gloire à Dieu. Une personne qui est délivrée est vraiment heureuse. Une personne qui a été bénie par sa grâce de rédemption est vraiment heureuse. Comme Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, a enlevé tous nos péchés, nous sommes sans péché. Il a achevé notre salut à la croix. Tous nos péchés, y compris les vôtres et les miens, sont également inclus dans le péché du monde, et nous sommes donc tous sauvés. Par la volonté de Dieu. Avons-nous du péché dans notre cœur lorsque nous sommes en Jésus-Christ? Non, nous ne le faisons pas. Chers amis, la femme surprise en adultère a cru aux paroles de Jésus et elle a été sauvée. Son histoire est enregistrée dans la Bible parce qu'elle a reçu la rédemption. Mais les scribes et les pharisiens hypocrites ont fui Jésus. Si vous croyez en Jésus, c'est le paradis, mais si vous quittez Jésus, c'est l'enfer. Si vous croyez en ses œuvres, c'est comme le paradis, mais si vous ne croyez pas en ses œuvres, c'est comme l'enfer. La rédemption ne dépend pas des efforts d'un individu, elle est due au salut de Jésus. Lisons Hébreux, chapitre 10. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 10. Par la volonté de Dieu, Jésus a offert sa vie pour prendre nos péchés une fois pour toutes et a été jugé une fois pour toutes et ressuscité. Par conséquent, nous avons été sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Hébreux, chapitre 10, verset 10, est écrit au passé complet. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de mentionner à nouveau la rédemption. Vous avez été sanctifiés. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14. Vous êtes tous sanctifiés pour toujours. Si vous péchez demain, serez-vous à nouveau un pécheur? Jésus n'a-t-il pas également porté ce péché? Il a fait. Il a également enlevé les péchés du futur. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute, « et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 18. L'expression « rémission de ces choses », cela signifie qu'il a effacé tous les péchés du monde. Jésus est notre Sauveur. Mon Sauveur est votre Sauveur. Nous avons été sauvés en croyant en Jésus. C'est la rédemption en Jésus et c'est la plus grande grâce et le plus grand cadeau de Dieu. Toi et moi, qui avons été rachetés de tous les péchés, sommes les plus bénis de tous.